Je crois que, enfin, je crois que c'est pas une chose où il faut croire. Il faut savoir. Il vaut mieux être sûr que croire ces choses-là. Ça veut dire on est comme ça ou on n'est pas comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire que je crois qu'il y a un monde à venir? Je sais, je vis comme cela. Oui. Je sais. Écoutez, votre question ouvre mille portes. Je veux dire ceci. J'ai le droit de douter si j'ai suffisamment de mérite pour y arriver, mais qu'il y en ait un de monde à venir, ça, c'est pas une question de... Bien, alors j'en arrive si... Oui, mais rapidement. Eh oui, vous voyez, Job. Et vous savez, il y en a beaucoup comme ça, tout le monde des jobs, mais des tzadikim qui ne sont pas des tamid chamim. On les appelle tzadikim be'enehem. Ils sont tzadikim à leurs propres yeux. Il faut beaucoup d'humour pour être tzadik. Et c'est ça la chorma. Comment? J'ai entendu le dernier des juifs, mais pas la phrase. Oui, vous avez raison. Le dernier des juifs, ça va un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire le fait d'assumer l'absurde du salut du monde par la souffrance gratuite. C'est une projection de la vision chrétienne sur l'histoire d'Israël que je parle à plus ou moins, quand même, malgré tout, judaïsée dans son style. Malgré tout, l'atmosphère du dernier des justes est encore une atmosphère juive. L'atmosphère, en tout cas, pas le livre qu'il a écrit après. C'était un plat de porc aux bananes sucrées, si je me rappelle, au marché au casé. Allez où ça mène. Et là, mais Schwarzbach, c'est un très bon juif, d'autre part. Vous savez, le personnage littéraire, c'est autre chose que ce qu'il est individuellement. J'ai le privilège d'avoir été un ami très proche de lui quand nous étions ensemble étudiants à Paris. En même temps qu'avec Elie Wiesel, on était la même bande. En tout cas, pour revenir au problème. Et je voudrais conclure brièvement l'analyse de ce soir en citant très rapidement comment Maïmonide, donc dans le chapitre 23, nous indique les systèmes d'explication. Alors, mais ce que nous avons vu jusqu'à présent était important. Il fallait comprendre deux choses. C'est que la souffrance de Job ne vient pas de Dieu directement, et on aura à reprendre ce thème. Et d'autre part, que Job n'était pas Chacham, et c'est pourquoi il souffre tellement. S'il était Chacham, il serait arrivé à assumer son sort dans la vie de façon plus, disons, sereine. Souffrir, c'est toujours un scandale, mais au moins, sa souffrance n'aurait pas été tragique. Alors voilà, première explication de Maïmonide, le système de Job. Tout simplement, c'est ce que nous avons vu, Job considère que ce sont vraiment des épreuves. Et Maïmonide nous dit, voilà son erreur. Si Job comprenait que ce ne sont pas les épreuves grave l'atteinte à l'intégrité de l'être, alors il aurait moins souffert. Ça nous ouvre une question gigantesque, l'existence de la folie. Et alors, donc, le scandale se réintègre dès qu'on découvre que, quand même, la souffrance de Job n'est pas scandaleuse, enfin, n'est pas tragique, mais alors l'existence des fous devient un gros problème. Alors, nous aurons à voir ça, si on a... Le premier des théologiens, des amis de Job, c'est Eliphaz. Eliphaz à Thémanie. Eliphaz a pour système un système que Maïmonide nous dit être le plus proche de l'enseignement de l'orthodoxie de la Torah, c'est que tout ce qui arrive est mérité. Et que par conséquent, Job ne veut pas s'avouer qu'il le mérite, mais il le mérite. C'est là qu'il faut rattacher l'analyse que nous avons eue entre la faute d'acte et la faute d'être. Et en particulier, nous sommes extrêmement frappés de la manière dont commence l'enseignement du Talmud. C'est la première Mishnah dans Maseret Brachot qui va nous reprendre l'histoire de Job, mais dans un tout autre niveau. On nous raconte ceci. Il y a une discussion dès le début de savoir jusqu'à quelle heure dans la nuit on peut dire la prière du soir. C'est moi qui schématise, c'est le Kriyat Shema, mais pour aller plus vite, la prière du soir. La discussion est finalement entre Rabbi Yochanan ben Zakkai et les autres enseignants de la Mishnah. Rabbi Yochanan ben Zakkai enseigne qu'on a le temps toute la nuit de dire la prière du soir. Tandis que les Hachamim disent non, jusqu'à minuit. Mais si on a laissé passer minuit, a posteriori, on peut aller jusqu'au bout de la nuit. Et on nous raconte un mahasé, une histoire. Les enfants de Rabbi Yochanan ben Zakkai venaient d'un michté, venaient d'un festin. Au matin, ils ont dit à leur père, « Nous avons laissé passer le temps de dire le Kriyat Shema. Est-ce qu'on a encore le temps de le dire ?» Alors leur père leur répond, « S'il ne fait pas encore jour, vous avez le temps de le dire. » Du point de vue de la halakha, première note, si vous voulez, le fait que l'opinion de Rabbi Yochanan ben Zakkai était opposée à celle des Hachamim, rendait interdit à ses enfants, c'est-à-dire ses élèves, par excellence, de suivre l'opinion de leur père, même a posteriori, parce que ça pouvait ressembler comme étant en controverse avec la règle légale. Mais ce n'est pas surtout cela que je voulais citer, c'est le fait qu'on nous cite cet exemple. Voilà qui sont les enfants de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ils sont au festin, mais quel est leur souci? Est-ce qu'on a dit le Kriyat Shema ou pas? Alors que les enfants de Job, eux, c'est le père qui a un souci. Est-ce qu'ils ont blasphémé ou pas? Où est la différence? C'est assez extraordinaire. C'est-à-dire, l'enseignement du Talmud commence par le contre-Job, par l'anti-Job, c'est-à-dire Rabbi Yochanan ben Zakkai. Je pense que vous comprenez, oui. Là, il n'y a pas de faute d'être. Je veux dire, Rabbi Yochanan ben Zakkai, non seulement est sûr de ses enfants, mais ses enfants sont sûrs de lui, si j'ose dire. Et donc, ça, c'était l'explication d'Eliphaz. Elle n'a de sens qu'à ce niveau-là, de chercher la faute d'être. Mais ce n'est pas culpabilité, c'est autre chose. Troisième opinion, celle de Bildad, le deuxième des amis de Job. Et c'est l'opinion scandaleuse, la théologie scandaleuse. Si tu ne mérites pas cette souffrance, c'est qu'elle t'est donnée pour augmenter le salaire que tu recevras. C'est-à-dire, il vaut mieux que tu souffres, même si tu ne le mérites pas, parce que ça permet à Dieu de te donner plus de bonheur après. C'est ça qui est la théologie scandaleuse. Vous comprenez le problème? Et effectivement, la Gemara, que je vous ai citée tout à l'heure dans Brachot, raconte des issourines, des souffrances de Talmidei Chachamim, en particulier Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan s'est mis à souffrir. Ses amis viennent le visiter et lui posent la question suivante. « Havivin alecha issourin, est-ce que tu aimes bien ces souffrances? Tu vas avoir un bon salaire avec ça. » Et il répond « Lohen veloscharan, ni les souffrances, ni leur salaire. » Vous voyez comment la Gemara refuse, là. Est-ce que c'est clair? C'est ça, c'est la thèse que la souffrance injuste, c'est très bien, non méritée, c'est très bien, puisque ça permettra un bénéfice. Donc nous avons trois thèses. La quatrième, c'est la thèse de Tsophar, le troisième des amis de Job. Et alors lui, ça ressemble beaucoup au stoïcisme. Il dit, c'est la nécessité, c'est la fatalité, c'est la volonté de Dieu, il n'y a pas à chercher à comprendre. Puisque c'est Dieu qui décide ce qui t'arrive, c'est que ça doit avoir un sens. Il ne faut pas chercher à comprendre. Vous voyez, à quel limite ? On prendra ça un peu plus en détail. Quelle est la manière de se sortir de ce problème ? Par le stoïcisme. Puis, la cinquième des opinions, c'est l'opinion la plus difficile d'ailleurs, dit Maïmonide, c'est celle du cinquième des amis, Elihu. Elihu ben Barachel, qui est le quatrième ami. J'ai dit la cinquième opinion, c'est le quatrième des amis. Et nous verrons d'ailleurs quelques versets de Elihu, parce qu'il commence par dire ceci. Je me suis tué jusqu'à présent. Je vous ai laissé passer, parler, les trois, parce que vous êtes âgés, vous êtes expérimentés. Lui, il est très jeune. Il dit de lui, je suis un gamin, donc je ne voulais pas parler devant vous. C'est une espèce d'étudiant en théologie, si vous voulez. Mais vous n'avez dit que des bêtises. Et comme vous n'avez dit que des bêtises, alors j'interviens. Et il donne toute une théorie, son opinion, qui consiste à dire ceci. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui est en chaos. S'il y a intervention d'un mérite supplémentaire, s'il y a le plaidoyer d'un ange pour tel ou tel homme, alors il est protégé. Sinon, s'il n'y a pas de plaidoyer suffisant, de mérite supplémentaire suffisant, de surcroît de mérite, alors il est normal que nous soyons donnés au sort de la vie de nature. C'est-à-dire qu'il inverse les données du problème. Il dit, la normalité de l'homme, c'est de souffrir. C'est quand on ne souffre pas que c'est anormal. Et pourquoi on ne souffre pas ? Parce que quelqu'un là-haut s'occupe de nous. Mais il ne peut pas faire que s'occuper de nous. Alors il a des moments d'inadvertance, et on retombe dans la vérité du monde, c'est-à-dire de souffrir. Ça, c'est la cinquième opinion de la théologie contestataire, si vous voulez, de Elihu ben Barachel. Et puis, en fin de compte, Maïmonide nous donnera son explication, et pour laisser un peu de suspense, nous verrons ça demain soir. Lorsque le Satan, dans son plaidoyer, qui a pour objet de, comment dire, de disqualifier la définition de Job comme juste, et réclame des souffrances ou des épreuves de plus en plus, de plus graves, de telle sorte de mettre véritablement Job en question dans sa sérénité, alors Dieu dit au Satan, « Vayomer Hashem el Satan, hinno biyadecha, le voici entre tes mains. » C'est-à-dire, tu peux porter atteinte à tout ce qu'il possède, jusqu'à son corps, puisque le dernier niveau des épreuves portera effectivement sur la maladie du corps, mais « ach et nafsho shemor », mais préserve son « nefesh ». Littéralement, ça veut dire « sa personne ». Et à ce moment, je pense que c'est là que se rejoint votre question. À ce moment, je vous avais expliqué que, d'après les principaux commentaires du Midrash, ça signifie qu'il fallait que Job garde sa présence d'esprit, et qu'il ne soit pas atteint par d'aliénation, qu'en aucun cas ces épreuves n'ont porté sur son être même. Et je vous avais signalé en passant que ça pose effectivement le problème de l'existence d'autre part, de la folie dans la réalité du monde. Est-ce que c'est à cela que vous faites allusion dans votre question ? Oui. Et ceci se rattache aussi, dans un deuxième point important, à l'explication que Maïmonide nous donne. Nous relisons la première phrase du paragraphe que je viens de vous désigner, et qui est la deuxième remarque que Maïmonide nous avait fait faire. « Vayoter mouflé, vet amoua » est la chose la plus extraordinaire et étonnante dans toute cette question, c'est le fait que le texte ne définit pas Job comme hacham, c'est-à-dire comme sage, possédant la véritable connaissance. Et nous avons vu que l'intention de Maïmonide était d'expliquer que si Job était véritablement hacham, il aurait compris par lui-même que les épreuves qui l'ont atteint ne sont pas de véritables épreuves. C'est-à-dire, elles portent sur l'avoir, la possession, même au niveau du corps, c'est-à-dire sur des réalités éphémères et contingentes. C'est-à-dire qu'à un certain niveau de chokhma, il y a bien évidemment l'expérience d'un critère de distinction entre l'éphémère et le nécessaire et l'essentiel. Alors ces deux remarques se relient. Ce ne serait que dans la mesure où Job aurait été atteint dans son intégrité d'être, dans sa conscience, dans la présence de soi à soi, que traduit le terme hébreu de nefesh, le fait d'être une personne, que véritablement on aurait parlé d'épreuves qui auraient mis en question la notion de providence. Eh bien, vous savez que je ne suis pas en réalité compétent, il faudrait demander l'avis de spécialistes à ce sujet. Mais simplement, un principe très général que je pourrais citer, c'est le fait que les commentateurs ont toujours posé la question que la réalité de la folie, telle qu'elle est définie, si vous voulez, dans l'expérience de la culture contemporaine, n'est jamais rencontrée dans l'enseignement biblique. Comme si l'univers de la Bible ignorait cette réalité. Et on pourrait le comprendre de la manière suivante, c'est que, et sans doute, il faudrait demander l'avis d'un spécialiste praticien et pas seulement théoricien, c'est que on n'atteint peut-être jamais ce niveau-là, et que quel que soit le degré de l'aliénation, il reste toujours une présence de soi à soi, la plus cachée soit-elle, et qui fait que le nefesh n'est jamais atteint. Et il y a dans le vocabulaire biblique le terme de shigaon, et au niveau du dictionnaire, cela est traduit par le concept de folie. Mais il ne semble pas du tout qu'il ait le même sens que la notion d'aliénation mentale qui définit le concept de folie dans la civilisation contemporaine. Ça signifie plutôt l'affolement que la folie. Et être dans un état de shigaon, ça veut dire être affolé. Mais cette catégorie de l'aliénation mentale telle qu'elle est définie, donc dans l'atteinte portée à l'être profond, eh bien, à ma connaissance en tout cas, ne se trouve pas, ni dans le vocabulaire biblique, ni dans l'enseignement général de la tradition. On pourrait donc mettre en évidence l'implication suivante, c'est que pour l'univers hébraïque, ce que l'homme de la culture contemporaine entend par la folie n'existe pas en réalité. Oui. Oui, je vous ai cité une Gemara qui définit une différence entre Issurim shel Ahava et Issurim shel Onesh, et la distinction qu'il y a entre ces deux catégories, les souffrances de châtiment ou les souffrances d'épreuve, qui se traduit littéralement par souffrance d'amour, Issurim shel Ahava, eh bien, c'est le fait que deux critères sont donnés. Si on peut continuer à étudier, alors il ne s'agit pas de Issurim shel Onesh, c'est-à-dire de souffrance de châtiment, ou bien, deuxième critère, si on peut continuer à prier. Et je vous avais aussi signalé le fait que les deux critères sont nécessaires, étant donné que, suivant le tempérament de l'option spirituelle, pour certains, il faut un plus grand effort pour étudier, et pour d'autres, un plus grand effort pour prier. Donc, il s'agit du même critère, mais indiqué pour deux tempéraments, pour deux options spirituelles différentes. Or, effectivement, notre problème était de savoir si les épreuves de Job sont des épreuves de châtiment, selon en particulier la thèse de Eliphaz, un des théologiens amis de Job, que tout ce qui arrive est mérité, que par conséquent Job feint d'être un juste absolu, qu'en réalité ne veut pas avouer qu'il aurait une culpabilité quelconque, et donc qu'il s'agirait de souffrances de châtiment. Mais toute la... Non seulement l'atmosphère du livre lui-même, lorsqu'on l'a lu en entier, mais les principes de l'explication de Maïmonide, c'est qu'il s'agit véritablement d'un juste et que par conséquent, il s'agirait de souffrances gratuites, donc de souffrances d'amour. Eh bien, les deux choses sont reliées. Le fait que le Satan n'a pas l'autorisation de porter atteinte à son être montre bien qu'il n'y a pas de culpabilité.
Vous avez quand même dit qu'il y avait une culpabilité au sein de la génération de fait.
Oui.
Et est-ce que vous l'avez terminé à partir du fait que Job ne croyait que, avait des doutes sur les actes de ses enfants, déjà sur cette signe qu'il pouvait se transformer en débauche?
Alors. C'est pas exactement comme ça, mais terminé la question.
D'abord, j'aimerais que vous rappeliez, parce que je n'avais pas très bien saisi cette idée de faute d'être par rapport à justement une faute pareille. En quoi c'est une faute d'être finalement de douter de la.
Oui, alors écoutez, eh bien, bon, alors nous allons reprendre l'analyse de ce problème qui me semble assez important. C'est-à-dire, toute la discussion, et ce qui rend, si vous voulez, la problématique même de cet enseignement obscur ou difficile, c'est que. On a deux postulats que Maïmonide a refusés. Le premier postulat, c'est que ces souffrances viennent de Dieu lui-même. Et là apparaîtrait le caractère injuste, gratuit, arbitraire de la relation de Dieu à l'homme. Et c'était la première remarque, et où Maïmonide nous dit, il faut lire attentivement le texte, le Satan est une force du monde créé, et non pas une force du monde angélique, selon l'expression du verset sur laquelle nous allons revenir, les Bnei Elohim, c'est-à-dire les anges. Et par conséquent, il ne s'agit pas d'une intervention qui vient à travers la volonté de Dieu définie expressément comme volonté de Dieu mettant à l'épreuve l'homme. Cette force qui est appelée le Satan et que nous aurons à redéfinir est une des catégories constituant de la réalité du monde créé. Bien, et j'espère que déjà ce soir nous arriverons à cette définition. Ça, c'est le premier postulat que Maïmonide écarte. Et puis, le deuxième postulat, c'est que ce sont véritablement des épreuves. Et là, nous abordons la deuxième remarque que nous fait faire Maïmonide. Le texte ne dit pas que Job était Talmid Chacham. S'il était Talmid Chacham, il aurait compris que cette mise à l'épreuve n'est qu'au niveau des réalités éphémères, disons des biens éphémères, et de l'avoir et non pas de l'être. Et par conséquent, tout le caractère plus que dramatique, tragique, de la question posée sur la gratuité de cette souffrance est aussi évacué. Et on arrivera finalement à la notion que c'est le comportement du monde lui-même qui entraîne cette nécessité de la souffrance qui ne vient pas en réponse à une culpabilité. Mais avant d'arriver à cette conclusion que nous aurons en fin de compte, et à la lecture du livre et à la lecture de l'enseignement de Maïmonide, j'avais voulu indiquer que les choses ne sont pas si simples. C'est qu'il y a une indication dans le prologue du livre qui indique qu'il faut entendre une différence entre la culpabilité ou la faute au niveau des actes, et à ce niveau le texte est très clair, Job n'a aucune faute au niveau des actes. Si l'on le met en jugement, si on relie son identité, c'est-à-dire au fond le contenu total de sa mémoire, de la mémoire comme trace de tout ce qu'il a été, de tout ce qu'il a fait, par rapport à une loi, un code pris comme étalon, si vous voulez, ce qui est la définition du jugement, c'est la confrontation entre une vie, un être, et son contenu de mémoire, et d'autre part, la loi, en tant qu'elle exprime l'ordre des valeurs de l'authenticité. Et c'est la notion du tzaddik. Le tzaddik est celui pour qui il y a homogénéité et adéquation entre ce qu'il est et la loi. Mais tout ceci s'entend au niveau des actes. Et donc, au niveau des actes, le texte dit clairement « Job est un homme de rectitude ». Et il y a les deux définitions. « Tam veyachar », intègre et droit, « vesar mera », et s'écartant du mal. Vous avez à la fois la définition d'approche positive et la définition d'approche négative de la définition du tzaddik. Donc, au niveau des actes, tout plaidoyer des théologiens amis de Job, voulant justifier Dieu en faisant allusion à une culpabilité que Job ne voudrait pas avouer, est un plaidoyer qu'il faut refuser a priori. Et finalement, lorsque Dieu intervient dans le dialogue, et il le dit expressément en reprochant aux amis de Job d'avoir osé soupçonner que Job ait fait une faute d'acte. Cependant, j'ai mis en évidence, non pas un détail, mais une indication importante du prologue, c'est que chaque matin, après la nuit passée en festin et en fête par ses enfants, chaque matin, Job offrait de façon préventive un sacrifice expiatoire dans l'éventualité que peut-être ses enfants auraient commis une faute. Et par conséquent, cette faute d'être au niveau de Job n'est pas du tout le fait qu'il doute de ses enfants. Et c'est le fait qu'il y a à douter de ses enfants. C'est-à-dire que son intégrité ne passe pas à la génération suivante de ses propres engendrements. Et là, je vous ai donné une toute autre explication que je vais reprendre. C'est le fait que la Gemara de Bava Batra, qui avait été d'ailleurs signalée par Maïmonide au début du chapitre, la Gemara de Bava Batra indique qu'on pourrait situer la personne de Job, et pas seulement son personnage, à différentes époques. Vous vous souvenez, soit au temps des patriarches, soit au temps de la sortie d'Égypte, au temps de Moïse, soit au temps du roi David, et soit au temps du retour de l'exil de Babel. Et page 15a. Et la définition commune de ces différentes époques, c'est que ce sont des époques de transition, d'un cycle à un autre. La définition du tzaddik change au niveau de l'être. Et par conséquent, si le tzaddik du cycle précédent, qui continue à être défini comme tzaddik absolu et parfait, au niveau de la relation aux actes, il n'y a pas eu de transgression de la loi, et aucun jugement ne pourra mettre en évidence une inadéquation entre ce tzaddik et la loi telle que la halakha, c'est-à-dire l'application de la loi, était en son temps. Mais si ce tzaddik, lorsque le temps change et que l'on passe d'un cycle à un autre, reste tzaddik de l'ancien temps, alors il se trouve en inadéquation d'être avec la loi du temps qui vient bien qu'il n'ait commis aucun acte répréhensible. Alors, c'est cette distinction qu'il faut arriver à comprendre. Et peut-être que, d'ailleurs, le vocabulaire que j'ai employé est inapproprié. Peut-être qu'il ne faut pas dire « faute d'être » et qu'il suffirait de dire « inadéquation d'être ». D'ailleurs, pour donner, si vous voulez, un schéma plus simplifié, c'est-à-dire le fait d'être sadique à un niveau X, ne suffit pas pour être sadique au niveau X plus 1. Et aucun jugement ne pourra mettre en évidence qu'il y a eu faute, qu'on ait fait le mal. Mais c'est au niveau de l'identité de l'être et non pas de l'avoir des actes. Je vous citerai très rapidement à ce propos un des commentaires kabbalistes sur ce problème et qui dit que lorsque Job est au niveau des patriarches, il s'agit de Terah, qui est le père d'Abraham, et que Terah a commencé à souffrir quand Abraham s'est circoncis. Et là, nous avons une illustration concrète de ce principe. C'est-à-dire, tant que Abraham n'est pas devenu Abraham, alors la définition du juste dans ce temps de Abraham est compatible avec la loi du temps. Mais à partir du moment où une mutation d'identité s'est produite en Abraham, qui le fait devenir Abraham, il passe à un niveau d'être bien supérieur. Ce seul fait disqualifie le juste du temps ancien. Alors ce juste du temps ancien se trouve en inadéquation avec la définition du tzaddik au niveau de l'être. Et il souffre, et il en souffre, mais il ne comprend pas pourquoi. Est-ce que c'est plus clair déjà? Je vous donnerai une autre illustration. Au moment où il y a eu la révolte de Korach, de Corée, contre Moïse, et Moïse a demandé le jugement de Dieu. Et le jugement de Dieu, au vu et au su de tout le peuple, a donné raison à Moïse. C'est-à-dire la terre s'est ouverte, et toute le parti de Korach a été englouti. Vous connaissez ce texte. À ce moment, il y a un verset assez extraordinaire. Le peuple se tourne contre Moïse et lui demande « Est-ce que tu veux notre mort à tous ?» Or, le peuple voyait bien que le jugement de Dieu avait donné raison à Moïse contre Korach. Mais nous sommes renvoyés au même principe. La présence de l'identité de Moïse au niveau où il se trouve disqualifie tout le monde. Et par conséquent, ce verset traduit cette inquiétude des contemporains de Moïse que s'il faut définir le critère du tzaddik au niveau où Moïse se trouve, tout le monde est perdu. Eh bien, c'est un peu dans ce sens-là qu'il faut comprendre cette catégorie de inadéquation d'être, si vous voulez, de façon plus précise ou plus nuancée que faute d'être. Et par conséquent, il ne s'agit pas du tout d'épreuves de châtiment, il s'agit bien d'épreuves d'amour, mais elles ont un objectif qui nous est déjà, enfin un tachlit, comment dire, un but, qui nous est déjà défini dès le prologue. Il est bien évident que nous ne pouvons pas suivre, encore une fois, les différentes thèses des théologiens amis de Job, dans la mesure où ils recherchent, si par hasard il n'y avait pas une culpabilité cachée au niveau des actes, mais le texte nous a averti que Job était destiné à souffrir, dans la mesure où il n'arrivait pas à réajuster son identité avec le cycle qui commence. Je me demande d'ailleurs à la limite si, à travers cette catégorie, ça nous aide pas à comprendre l'hostilité universelle qui entoure le peuple juif chaque fois que le peuple juif passe d'un cycle à un autre, comme si de façon absolument inconsciente mais très profonde, l'humanité accuse Israël de fautes imaginaires au niveau des actes, mais elle l'accuse au niveau de l'être, d'être le Moïse du temps, et que par conséquent, l'émergence de cette identité d'engendrement d'Israël disqualifie l'humanité environnante, et d'où peut-être, non pas une explication, ni non plus une justification, mais en tout cas une compréhension possible du caractère absolument aberrant de l'universel de cette hostilité vis-à-vis du peuple juif et en particulier d'Israël. Peut-être que un jour les commentateurs expliqueront le symbolisme assez étonnant. Enfin, je pense que c'est une coïncidence, mais elle est quand même assez étonnante que ce soit au nombre de 72 nations que cette fameuse motion de la semaine dernière ait été votée. Enfin, pour ceux qui sont un peu au courant de la signification de ces chiffres et de ces nombres, il y a quelque chose d'assez frappant. C'est le nombre dont se sert habituellement la tradition pour dire les nations. 70, mais comme vous le savez, au niveau du Sanhédrin qui correspond à cette multiplicité, il y a aussi le Nassi et le Hav Bet Din, et c'est le fameux nombre de 72, Ayn Bet. Et il vaut mieux ne pas trop réfléchir à ces coïncidences. Mais enfin, ce qui apparaît là, c'est ce caractère d'universalité. Ça veut dire que le Satan accuse Job de le disqualifier. Bon, je pense que c'est donc suffisamment précisé en tout cas. Et je pense qu'il faut faire une différence entre les deux catégories de l'arbitraire et du gratuit. Les souffrances de Job sont gratuites, mais elles ne sont pas forcément arbitraires. Elles ont une signification. Et elles ne portent pas du tout sur une culpabilité au niveau des actes, mais sur ce que peut-être on pourrait quand même définir comme une culpabilité au niveau de l'être. Parce que l'incapacité de devenir plus, c'est finalement le refus de devenir plus. Abraham a été le premier des Goïm à devenir Israël. Et par conséquent, c'est possible à l'échelle universelle. Et le fait pour Job de rester au stade où il se trouve et de ne pas passer au-delà, cela implique finalement un refus. Même si ce refus n'est pas conscient, lucide, c'est une inadéquation d'être avec un certain programme de la création du monde. Quand on arrivera, je suppose que nous aurons le temps demain, au contenu de la réponse de Dieu, et où Dieu semble répondre à côté, si j'ose dire, dans le récit. Il ne répond pas à la question « Pourquoi Job souffre ?» Il interpelle Job en lui disant « Est-ce que tu étais présent quand j'ai créé le monde ?» Grosso modo, on pourrait schématiser, si vous voulez, tout ce chapitre de cette manière-là. Et cela veut dire « Est-ce que tu comprends comment fonctionne le monde ?» Et si tu comprenais comment fonctionne le monde, alors tu comprendrais et cette souffrance, et son objectif, et ce qu'il faut faire pour être au-delà. Mais il ne s'agit pas, en tout cas, de la catégorie de la souffrance rédemptrice, qui est encore un autre blasphème. Bien. Eh bien, est-ce qu'il y a une autre question ? Oui ?
S'il n'arrive pas finalement Job à se dépasser, c'est-à-dire à dépasser ce niveau-là, il reste à ce niveau-là, vous avez exprimé ça par ses enfants ?
Non. Non, non. Le signe, c'est que, si vous voulez, au-delà même de l'analogie que ces indications représentent, le signe que Job est le juste du cycle antérieur, c'est précisément l'inquiétude qu'il a sur la conduite de ses enfants. Oui ? Pas du tout. Pas du tout. Ça veut dire que les enfants, c'est pas seulement ses fils, il y avait aussi les filles d'ailleurs. Enfin, les enfants de Job ne sont pas, et Job lui-même le pressent, capable d'être le véhicule de cette identité de tzaddik d'un cycle à l'autre. C'est ça qu'il faut finir par comprendre. Et donc, effectivement, ils risquent d'être inférieurs à lui. Oui, mais écoutez, et si vous reprenez le récit des généalogies, il faut savoir que chaque fois, à chaque niveau de généalogie, la Torah nous enseigne un tel a engendré un tel, et il a eu des fils et des filles. Terah peut avoir une famille nombreuse en dehors d'Abraham. C'est au niveau de la mutation des engendrements que l'identité d'Abraham est après Terah. Mais Terah peut continuer à faire souche par copie plus ou moins conforme. Il a des petits d'hommes, mais pas un fils de l'homme. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça se rattache aussi à la question que pose la Gemara. Est-ce que Job est d'Israël ou non d'Israël. C'est-à-dire, est-ce qu'il fait partie de la lignée des engendrements ou pas? Je veux simplement compléter ce point de la question de la manière suivante. Et je me réfère là d'ailleurs à une analyse que nous avons eue au séminaire précédent. Le fait de refuser l'éventualité de l'accomplissement, de s'en tenir à l'être de promesse quand le temps de l'accomplissement est arrivé, dévoile qu'en réalité on refusait la promesse elle-même. Et par conséquent, lorsque le temps du monde change d'un cycle à l'autre, le fait de rester attaché en toute intégrité aux critères d'authenticité du cycle précédent, c'est avouer qu'on refuse ces critères d'authenticité eux-mêmes. Je pense que c'est suffisamment clair. C'est ça, dans le Roland Barthes. Oui, effectivement. C'est une question extrêmement importante. C'est-à-dire que la relation et des preuves qu'il y a entre Job et ses enfants, et lorsque ses enfants sont atteints, est encore de l'ordre de l'avoir. C'est une souffrance au niveau du contenu de l'affectivité. Je reprends un point de l'analyse de la semaine dernière. Avant d'être averti par le commentaire de la signification de tout ce problème, et il nous faudrait beaucoup plus d'heures que nous disposons pour arriver au bout, alors on est indigné d'apprendre que les enfants de Job sont morts. Mais on oublie de comprendre que les deuxièmes enfants qu'il a reçus en compensation, eux aussi sont destinés à mourir. C'est, si vous voulez, ce qui est dramatique dans le récit du prologue, ce n'est pas que les enfants de Job sont morts, c'est la manière dont ils sont morts. Et cette manière déclenche dans la conscience affective de Job un trouble affectif, une souffrance, une douleur. Mais c'est encore de l'ordre de l'avoir. Est-ce qu'il ne vous arrive pas de penser à tous les êtres qui ont vécu dans les civilisations perdues et des autres continents? Mais comme ils sont morts il y a très longtemps, alors le caractère tragique de leur mort n'apparaît pas, et c'est le caractère des morts contemporains, tragique des morts contemporains qui apparaît. Mais dans la vision de la totalité de l'histoire du monde, il n'y a pas de différence. Et l'impact affectif est encore une fois de l'ordre du contenu de la mémoire et non pas de l'être. Et je ne sais pas si j'en ai parlé assez en détail la dernière fois, mais croire qu'un mort est mort, ben c'est cela, le fait de dire que Job n'est pas haram. Je suppose que j'en ai parlé, je vous ai cité un enseignement du Schronauer qui est extrêmement important, qu'on n'a pas le droit de pleurer à côté d'un mort, parce que c'est l'insulter, c'est lui dire « tu es mort ». Et il y a d'autre part un commandement du deuil, mais pas à côté du mort. Il faut effectivement vivre la souffrance de la séparation, mais ce qui est interdit, c'est de pleurer le mort comme s'il était mort. Et par conséquent, le fait que les enfants de Job sont morts, où est le scandale? De toutes les façons, ils devaient mourir. C'est la manière dont cela atteint Job qui fait épreuve et souffrance. Est-ce que c'est suffisamment précis? Je ne voudrais pas apparaître plus scandaleux que le scandale qu'il faut évacuer, mais je crois qu'il faut, il faut bien comprendre ce que Maïmonide veut nous dire en nous disant il faut envisager la nature de ces épreuves du point de vue de la Chochma. J'en profite une minute pour vous signaler un point important à propos de ces conduites de deuil. Et Job est resté dans toute l'imagerie de ce problème comme le symbole de la conduite de deuil et de tout le tragique que cela véhicule. Eh bien, la définition des rites de deuil, selon la tradition juive, c'est pas du tout la conduite de deuil. C'est le rite de la sortie du deuil. Simplement en vous décrivant les étapes, et dans, si vous voulez, dans les rites les plus classiques, et la fin de la première semaine, la fin du premier mois, la fin du troisième mois, la fin du onzième mois de la première année et la fin de chaque année. Et au bout d'un certain temps, la commémoration de la mort est une fête de famille et non plus une conduite de deuil. C'est-à-dire, ce qui est indiqué dans ce rituel, c'est la sortie des degrés de plus intense, de moins en moins intense, du deuil naturel. Et je pense qu'il faut donc récupérer, si vous voulez, le critère de l'expérience hébraïque de ce problème. Les rites de la mort ne sont pas du tout indiqués dans la Torah écrite. Ce sont des traditions du peuple juif. C'est la manière juive, la manière de la nation juive de vivre cet événement naturel, la séparation parce qu'il y a eu mort. Mais du point de vue de la Torah elle-même, il n'y a pas de mort. Je ne veux pas parler comme la mystique diluée, un changement d'état, mais enfin c'est de ça qu'il s'agit. C'est un changement de vêtements, c'est un changement de véhicule. Mais penser que le tragique de la mort des enfants de Job porte sur le fait qu'ils sont morts, eh bien c'est ça qui affecte Job comme souffrance personnelle. Ça lui fait mal à lui que ses enfants ne sont plus là. Mais il n'y a pas de tragique ontologique, il n'y a pas de tragique absolu, il n'y a pas de tragique métaphysique dans le fait qu'ils soient morts. Puisque de toutes les façons, puisqu'ils sont nés, ils devaient mourir. Bon, je pense que c'est suffisamment clair maintenant. Et ce qu'il faut récupérer, c'est cette conviction, je sais très bien qu'elle n'est pas du tout simple à intégrer, qu'il n'y a pas de mort. Penser qu'un jour, ceux qui ont vécu ressusciteront, c'est savoir qu'ils sont déjà vivants. Puisque nous sommes dans la dimension du temps, mais pas ce problème. Enfin, je veux dire de la durée, mais pas ce problème. Justement, il y a différentes sortes de tzadikim. Il y a des tzadikim qui ont la émouna, et il y a des tzadikim qui n'ont pas la émouna. Mais c'est une catégorie talmudique qu'il faut que vous découvriez. Elle se trouve enseignée à la fin de la Gemara de Sota. Tzadikim, she'enam, ma'aminim. Il y a des hommes qui sont en règle avec la loi de façon scrupuleuse, mais qui n'ont aucune relation avec l'espérance qu'elle véhicule. Et ça va dans le sens de ce que dit Maïmonide, que Job n'est pas haham. C'est de là que nous étions arrivés, d'ailleurs, dans l'analyse précédente. Ce que je veux dire, c'est que c'est évidemment le contenu de cette émouna, et en particulier qu'il n'y a pas de mort, Bila Amavet la Netzach, eh bien, c'est pas facile à intégrer pendant un long temps de la vie, avant que l'expérience d'intégration de ces catégories ne soit là. Eh bien, on croit sans savoir à quoi on croit, sans réaliser vraiment ce à quoi on croit. Et puis, finalement, l'expérience de la sagesse fait qu'on comprend de quoi il s'agit. Alors, on adhère ou on n'adhère pas. Et Emouna, ça veut dire aussi adhérer, adhésion. Et voilà que Job n'adhère pas. Et pourtant, il est tzadique. Il ne faut pas faire dire à Maïmonide, dans cette analyse, qu'en réalité, il n'y a pas de monde à venir, mais il ne veut pas l'admettre. Et c'est pourquoi il souffre. Et Maïmonide n'est pas un sadducéen. Ce que veut dire Maïmonide, c'est qu'il y a une vie éternelle, mais que Job ne réalise pas cela. Et alors, le commentaire des kabbalistes que je vous ai cité tout à l'heure, qui s'agissait de Terach, dit très expressément, on l'apprend de ce que la compensation qu'il a reçue de ses souffrances à la fin de sa vie est une compensation double. Il a reçu deux fois ce qu'il avait perdu. Et ça veut dire que le salaire de son mérite lui est donné dans ce monde-ci et qu'il n'a pas de monde à venir puisqu'il n'y croit pas. Et c'est parce qu'il n'y croyait pas qu'il souffrait tellement. C'est-à-dire parce qu'il ne comprenait pas qu'il y a une portée de niveau d'être, donc de olam à olam, que ces épreuves lui apparaissaient comme arbitraires. Je crois qu'il faut revenir à ces distinctions. Les épreuves de Job étaient gratuites, ça veut dire qu'elles ne viennent pas payer une faute quelconque au niveau des actes, mais elles ne sont pas arbitraires, parce qu'il y a une inadéquation d'être. Et je pense que c'est de la façon la plus dense, centrale, que Maïmonide nous explique ça en nous disant que le texte ne nous dit pas que Job était haram. Nous allons prendre un autre exemple. C'est Noar. Vous savez, les commentateurs se posent toujours la question pourquoi la sidra, c'est-à-dire la section du texte de la Torah qui raconte l'histoire de Noé, Noar, n'est pas intitulée Toldot, les engendrements, puisque le premier verset de cette paracha de Noar, c'est cependant, elle est Toldot Noar. Voici les engendrements de Noar. Et pourquoi précisément il faut attendre Isaac pour avoir, pour la première fois dans le texte biblique, réellement cette catégorie des engendrements. Et avec d'ailleurs un problème d'exégèse supplémentaire, puisque à propos de la naissance d'Isaac, le texte dit « Et voici les engendrements d'Isaac, Abraham a engendré Isaac. Et les toldot Yitzhak, Abraham holid et Yitzhak. » Ça veut dire qu'en réalité, les engendrements commencent à Isaac, parce qu'Abraham en a été capable. Je pense que c'est suffisamment clair. Il y a une des explications qui est donnée est que Noar n'a jamais été capable que de s'engendrer lui-même. Et ce qui est lu dans le verset, que je vais vous relire. « Elle est toldot Noar, voici les engendrements de Noar, Noar il tzadik. Et qui était Noar? Il était un homme juste, comme Job. » Mais relisons le verset. « Elle est toldot Noar,